BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passé de 3 minutes, on débute cette deuxième heure et on file sur les marchés. Thibaut François nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, début de semaine un peu particulier parce qu'il y a des vraies questions en bourse et puis il y a aussi un petit peu l'anecdotique et le fait qu'on est sans les Britanniques ce matin puisque la Bourse de Londres garde porte close pour l'enterrement de la reine.
Ouais, exactement. Les Britanniques ne sont pas là, donc ça se ressent un peu sur les flux. On a moins de 500 millions d'euros d'échangés, mais on se rapproche de 6 points sur le CAC. On est passé un petit peu en dessous tout à l'heure. Avant 10h, le marché est quand même sous pression, 1,20 de baisse quand même sur l'indice CAC 40. On a des taux qui sont toujours à la hausse. L'OAT française gagne encore quelques points et on est autour de 2,33. Le Brent se stabilise. Ce qui va être important cette semaine, c'est forcément le comité stratégique de la Fed qui va se réunir pendant 2 jours. Prise de décision qui sera suivie mercredi avec une décision de hausse de taux qui devrait être entre 0,75 et 100 points de base. Bon, on se dirige plutôt 0,75 en tout cas en termes de probabilité. C'est toujours cette inflation qui est difficile à maîtriser, sur lesquelles les investisseurs se focalisent. Donc le marché continue à baisser tranquillement autour de 1,2%. Sachant quand même qu'il y a encore des points positifs quand même dans le marché. Le taux de chômage sont quand même historiquement bas pour une inflation en Europe et aux États-Unis. On a toujours une demande qui est toujours très forte et c'est aussi pour ça que l'inflation a du mal à rebaisser, c'est que la demande est très importante, notamment aux États-Unis, et donc l'inflation a du mal à être maîtrisée, et c'est pour ça que la Fed envisage encore une hausse assez significative des taux pour les prochains jours.
Et puis il y a un gros dossier, c'était FMC6 avec deux fortes baisses ce matin, moins 4 pour M6, moins 3,40 pour TF1.
Exactement. Donc TF1 et M6 via RTL et Bouygues ont décidé d'annuler l'opération, en tout cas le projet de fusion de TF1 et de M6. Alors quand ça a été annoncé, il n'y avait eu aucune réaction boursière à la hausse et ça avait plutôt tendance à baisser. Quand ça a été annoncé l'annulation, maintenant ça baisse sur les deux titres. Ça c'est toujours la logique boursière qui est pas facile à interpréter. Moins 4% donc pour les deux titres à peu près ce matin. Pourquoi ça baisse? C'est surtout que TF1 et M6 n'ont pas le choix. Ils vont être obligés d'être agressifs d'un point de vue croissance externe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. RTL aussi a une contrainte de timing, donc de si elle veut vendre, M6 devra le vendre d'ici mai 2023. Donc on se rapproche des différentes échéances. Ça veut dire que forcément il va falloir trouver des cibles pour TF1 et M6. Soit dans les contenus, soit dans les chaînes télé, peut-être dans la radio. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur TF1 et M6 qui disposent d'un volant de cash extrêmement important. Ce sont des sociétés qui ne sont pas endettées, qui gagnent beaucoup d'argent et qui offrent du rendement. Donc, des projets d'acquisition qui peuvent être importants. Donc, c'est aussi un risque d'avoir une fusion ou en tout cas une acquisition qui ne soit pas relutive dans les premières années. En tout cas, c'est ce que retient le marché. Forcément, dans les cibles potentielles sur TF1 et M6, on parle souvent d'énergie. L'énergie qui est dirigée aujourd'hui depuis de nombreuses années et le dirigeant prend un peu d'âge et on n'a pas de succession aujourd'hui sur énergie. On parle aussi de Gaumont. Ça fait partie des sociétés qui ont du contenu et qui pourraient être intéressantes pour des sociétés comme TF1 et M6. Et forcément, vu que TF1 et M6 la fusion ne va pas se faire, les différentes chaînes qui devaient être vendues, notamment à Altice, Altice ne seront pas vendus à Altice et donc Altice va devoir aussi faire de la croissance externe pour pouvoir renforcer son pouvoir, ses parts de marché en France et en Europe.
Merci beaucoup Thibaut François, Fastea Capital, le marché parisien qui pour le moment est à 6009 points en baisse d'1,11%. Tout de suite, l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, ce sont les explications de l'autorité de la concurrence après l'échec du mariage TF1 M6. Son président Benoît Coeuré était l'invité de Good Morning Business ce matin. Pour lui, cette opération aurait donné naissance à un acteur ultra dominant dans la publicité télé et la concurrence des plateformes comme Netflix n'est pas un argument recevable puisque ce n'est pas le même type de publicité. On écoute Benoît Coeuré.
On s'est réunis, on a délibéré et on a conclu que l'opération n'était pas possible en l'état, puisqu'elle aurait créé un acteur qui aurait été ultra dominant sur le marché de la publicité télé. Les plateformes vont vers de la publicité qui sera ciblée parce qu'elles savent tout sur vous. La télé, c'est un média de masse, c'est un média fédérateur, c'est des gens qui sont le soir en famille devant leur écran et ça permet de toucher plusieurs millions de personnes en même temps. Donc pour lancer un produit, si vous lancez une voiture, vous la lancez à la télé. Netflix, Amazon, ça existe, c'est important, c'est pas le même type de publicité.
Les partenaires sociaux ont rendez-vous au ministère du Travail ce matin, au cœur des discussions, la réforme des retraites. François Bayrou, le président du Modem, a prévenu hier le gouvernement des risques d'un passage en force. De son côté, la CFDT s'oppose à ce que la réforme passe par un amendement dans le budget de la Sécurité sociale, budget qui sera présenté la semaine prochaine. Porsche sera lancé en bourse le 29 septembre à Francfort. Le prix de l'offre se situera entre 76,50 € et 82,50 €, ce qui valorise la marque entre 70 et 75 milliards d'euros. Il s'agit de la deuxième plus grande introduction en bourse de l'histoire en Allemagne. C'est une première pour l'Europe spatiale. Ariane Group dévoile un nouveau projet de fusée réutilisable, baptisée Suzy. Elle se veut la concurrente directe de SpaceX. Elle pourra effectuer des missions habitées avec un équipage de 5 astronautes. La fusée a été présentée à l'ouverture du 73e congrès international d'astronautique hier. Elisabeth Borne doit y annoncer aujourd'hui un investissement de 9 milliards d'euros sur 3 ans pour le secteur. Et puis la Chine et la Russie renforcent leur coopération dans la défense. Les deux pays vont mener conjointement des patrouilles et des exercices militaires. C'est ce qu'annonce le Conseil de sécurité russe ce matin. Pékin et Moscou vont aussi renforcer leurs contacts entre leurs états-majors. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque matin pour vivre au rythme de l'info éco. Et nous tout de suite on ouvre Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Autour de la table ce matin, Marc Touati, bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Pour le cabinet ACDFI et Hugues de Montvallon, bonjour Hugues.
Bonjour.
Pour Odo, BHF, banque privée, d'abord votre regard sur ces marchés un peu tétanisés. Alors on ne va pas parler de l'absence des Anglais aujourd'hui, c'est anecdotique, mais Hugues, on a l'impression qu'on est un peu tétanisés par nos banques centrales, par l'inflation, par...
Ah oui, bien sûr, parce que le problème central, c'est de savoir jusqu'où vous montez les taux. Tant aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, ça veut dire, en gros, savoir comment se comporte l'inflation. Et il y a une chose que nous ont montré les deux dernières années, c'est qu'il est extrêmement compliqué de prévoir l'inflation en changement de régime. C'est-à-dire que l'inflation, statistiquement, on sait la prévoir dans des périodes, disons, stables. Mais le problème, c'est qu'il y a des changements de régime, et quand on change de régime, les modèles ne fonctionnent plus. Les modèles tant statistiques, économétriques, que les modèles théoriques, la courbe de Phillips. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement où on ne sait pas où vont s'arrêter les taux, on ne sait pas où va s'arrêter l'inflation, on est dans cette incertitude, et cette incertitude, pardon, j'arrive pas à le dire, c'est elle qui crée du chaos, et c'est elle qui crée des surprises, et qui fait engendre la volatilité.
Vous avez... Quel regard, quelle prise de température de ce marché-là?
Oui, complètement. Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que toute notre génération, on n'a pas connu une si forte inflation et surtout une phase de remontée des taux d'intérêt. Je pense que c'est ça la vraie nouveauté. Tous les dirigeants aujourd'hui, étaient très jeunes. Lorsque la fois qu'on avait une forte inflation, c'était au début des années 80, voire il n'était même pas né. Je crois que Macron n'était pas né à l'époque. Donc effectivement, aujourd'hui, on essaye de réagir, mais entre guillemets, on a toujours...
Et alors, on ne parle même pas des intervenants de marché qui, eux, sont encore plus...
Exactement, là, ça, c'est encore pire, bien entendu. Alors on est là pour ça, on est là pour les rassurer, pour les aiguiller. Et puis, le gros problème également, donc on a cette inflation qui effectivement augmente. Donc il y a deux types d'inflation, mais sur l'inflation conjoncturelle, qui est liée à la base à une erreur stratégique déjà en 2021. On a continué la planche à billes alors que finalement la croissance redémarrait et que donc c'est la règle de base de l'économie, il y avait trop de demandes par rapport à l'offre. Après est arrivée bien sûr la guerre en Ukraine, etc., les tensions inflationnistes liées à l'énergie. Mais il y a une autre inflation qui est derrière, beaucoup plus structurelle et qui à mon avis va durer, qui est liée bien sûr à la transition énergétique, ça va revêtir des coûts bien entendu, qui est liée au fait qu'on veut effectivement se réindustrialiser, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça a des coûts également. Donc ça c'est tout le problème. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les modèles traditionnels sont bâtis en brèche. Et parallèlement, on voit que les banques centrales elles-mêmes sont un petit peu dépassées par les événements. Alors, c'est vrai que la Réserve fédérale américaine a réagi très vite. Elle a fait son mea culpa, on va dire, fin 2021, en disant effectivement l'inflation on l'avait pas vue, bon bah très bien. Alors que la BCE, bah, elle a toujours pas fait son mea culpa, elle monte les taux d'intérêt, mais globalement on se rend bien compte qu'elle agit de façon procyclique, c'est-à-dire elle agit maintenant que la récession est là. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est ça qui fait peur au marché, c'est qu'on a à la fois cette inflation qui dure, même si je pense qu'elle va baisser un petit peu d'ici la fin de l'année, puis néanmoins la récession qui est en train de s'installer. Et puis donc dernier point très important, c'est la remontée des taux d'intérêt, qui là aussi on n'a jamais vu ça, une si forte hausse des taux d'intérêt obligataire, hein, bien entendu, avec dans moins d'une semaine on sera fixé normalement les élections législatives italiennes, où là effectivement si on a un gouvernement europhobe ou une coalition europhobe qui arrive à la tête de l'Italie, ça posait quelques petits problèmes pour la stabilité de la zone euro et les taux d'intérêt à 10 ans italiens qui sont à plus de 4%. Donc là c'est quand même, voyez, quand même pas mal de facteurs de crainte. Donc les marchés, bah, à partir de là, baissent tout à fait logiquement, j'ai envie de dire, puisqu'il y a quand même pas mal de facteurs d'incertitude.
Alors, il y a une partie de l'incertitude qui était aussi dans les mains de la Réserve fédérale, de voir jusqu'où elle va pousser les feux, parce qu'on parlait de taux neutre, ensuite on a parlé de taux réel, maintenant on ne sait plus très bien auquel il faut se fier. Vous misez sur quoi ? Sur 75 ou sur 100 ?
Alors, je crois que c'est... Enfin, bon, peu importe le débat 75-100, moi ce qui est important, il me semble, c'est le terminal rate, enfin, le taux pivot, jusqu'où on va, quoi. Actuellement, disons, jusqu'à une semaine, jusqu'à la très mauvaise stat américaine, on disait, bon, le taux maximum de la Fed, c'est 3,80. On disait, c'est-à-dire ce que pricaient les forwards. Aujourd'hui, on est quelque chose entre 4 et 4,5. Alors, il y a des économistes, je pense à Jason Furman, je pense aussi à Larry Summers, qui disent, compte tenu de la vigueur de l'emploi américain, il est illusoire de vouloir ralentir l'inflation avec des taux inférieurs à 4,5. La question, c'est est-ce qu'on va à 4,5, est-ce qu'on va à 5? C'est plutôt ça. Donc, on n'est pas encore en cette zone de stabilité. Alors, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. On sait que pour des effets de base, l'inflation va diminuer. On a eu une mauvaise surprise au mois d'août, donc on aura peut-être une bonne surprise sur le mois de septembre. On n'en sait rien. Mais, en tout état de cause, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est 4,5 un peu, et pas en dessous de 4, le taux d'arrivée. Alors, juste un mot sur les banques centrales, hein, que ce soit la Fed ou la BCE, c'est que les banques centrales ont un mandat dual de contrôler l'inflation et de maximiser l'emploi. Alors c'est
la Fed plus que la BCE. Oui.
J'allais dire c'est explicite à la Fed et implicite à la BCE. Et aujourd'hui, après la crise financière, le message des banques centrales c'est on stabilise le taux d'emploi quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui c'est on stabilise le taux d'inflation quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que autrefois, l'erreur, c'était d'avoir un peu trop d'inflation. Et aujourd'hui, le risque, c'est d'avoir un peu trop de récession, si on peut dire. On est passé dans un autre univers, on a basculé. Et ça, c'est ça aussi, c'est un changement majeur.
Oui, comment vous voyez les choses, au 75 ou 100?
Moi, je pense que 75, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, l'autre problème qu'on a,
c'est les probabilités, hein. Vous connaissez, ouais, c'est Bloomberg qui collecte.
Disons qu'aujourd'hui,
on a dépassé les 35% pour 100 points.
Ouais, moi, je pense 75. Enfin, encore une fois, le problème, c'est qu'après, ça peut, vis-à-vis des marchés, générer un mouvement de panique. On se dit, tiens, le pilote panique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas fait pour rassurer. Donc, déjà, on se disait, est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion? Bon, a priori, il y en a un. Mais est-ce qu'il sait conduire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il sait piloter, du moins? Donc, si maintenant, effectivement, on va trop loin, trop vite en besoin dans la hausse des taux, ça peut être très mal perçu. Alors là, effectivement, les marchés baisseraient très fortement. Donc, je pense qu'il va maintenir 75 points, ce qui est déjà énorme. Hein, ne l'oublions pas qu'on avait taux d'intérêt à 0% il y a encore quelques mois, donc ça va quand même très vite, et parallèlement je pense que ça va continuer effectivement d'augmenter. Et alors là on a une courbe des taux, alors là aussi il faut savoir si les taux longs, parce qu'encore une fois c'est ce qui compte également sur les taux de crédit, hein, comme les taux longs sont en train d'augmenter aussi, c'est un petit peu dangereux. Puis ne l'oublions pas, la facture pour les États. Alors bon, aux États-Unis, ok, globalement, il y a le dollar il y a une demande mondiale de dollars, mais dans la zone euro, mais prendre conscience que quand le taux d'intérêt à 10 ans, il augmente de 1 point, juste pour l'État français, ça coûte 40 milliards d'euros sur 10 ans. Donc là, juste la hausse des taux qu'on a eu jusqu'à présent, ça coûte à peu près 100 milliards d'euros, certes sur 10 ans, mais ça veut dire en moyenne 10 milliards d'euros par an. Donc c'est un coût énorme. Oui. Mmh. Donc ce qui veut dire que là aussi, tout le problème, c'est la soutenabilité. Cet endettement, et quand on voit les mesures effectivement d'aide à l'inflation, entre guillemets, pour masquer l'inflation, hein, clairement, notamment en France, c'est un coût énorme. Donc c'est aujourd'hui, on dit que c'est 15 milliards, en fait c'est 45 milliards, après on réduit certaines recettes qu'on va observer, mais c'est quand même des coûts énormes. Et sachant qu'on a déjà tout utilisé pendant cette crise du coronavirus. On a été beaucoup trop loin, je pense. Et donc maintenant, on est un petit peu bloqué. C'est ça le drame, c'est qu'il n'y a pas tellement d'issue. C'est-à-dire que quand on a effectivement cette stagflation, à la fois de l'inflation et une stagnation ou une récession économique, si on voit trop loin dans la hausse des taux, ça va encore plus fragiliser effectivement notre économie. Et donc, qui dit moins de croissance, moins de profit. Donc là aussi, je pense qu'on aura des dividendes qui vont être moins bons également que certains veulent encore l'anticiper aujourd'hui. Plus la bulle de numérique qui continue de se dégonfler. Hein, je vois les valeurs comme Meta, ex-Facebook, etc., ou Zoom, bien entendu. Enfin, c'est quand même des effondrements assez colossaux. Hein, oui. Quand on est à moins 65%. Moi, je pense toujours à celui qui a acheté au sommet, si vous voulez. Pauvre
chéri, ah, bah, il y a toujours. Hein,
ouais, des... Il y en a beaucoup quand même, toujours, parce que, ouais. Encore une fois, malheureusement, il y en a pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cet ajustement qui est là, et donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, parce que plus on remonte les taux d'intérêt, c'est vrai qu'il faut tuer l'inflation, je suis d'accord, mais si demain, on espère tous, la guerre en Ukraine s'arrête, bon, bah, les cours des matières premières vont repartir à la baisse. De toute façon, c'est de facto. Hein, je vous rappelle, en 2008, quand les prix du baril vont trop loin, bah, ou des prix des matières premières vont trop loin, tôt ou tard, ça casse tellement la croissance qu'il y a une récession qu'après, les prix repartent à la baisse. Donc, moi, je serais... Vous voyez, autant la BCE a encore beaucoup de marge de manœuvre, autant je pense que... Enfin, donc, pour remonter les taux, autant la Fed, il ne faut pas qu'elle aille trop loin non plus, parce que, bon, si on casse vraiment complètement l'économie américaine, qui est déjà en récession depuis déjà deux trimestres, hein, ne l'oublions pas, ça sera quand même douloureux pour l'économie américaine.
Il y a une différence entre les deux banques ?
Oui, bien sûr.
Les décisions de l'une ne font pas les affaires de l'autre,
enfin... les décisions dans la communauté économique et financière, on voit bien que les décisions de la Fed font à peu près l'unanimité. Pour la BCE, c'est moins clair, parce que les trois quarts de l'inflation européenne sont des coûts énergétiques, hein, et donc c'est la hausse des prix, notamment du gaz. Et donc, quoi que fasse la BCE, bon, ça va pas changer ce choc d'inflation. Donc, on peut dire, alors l'argument, c'est oui, mais il faut que les anticipations soient ancrées. Oui, mais on s'aperçoit que les anticipations sont ancrées, que si on regarde... Si on regarde les obligations indexées sur inflation, elles ne montrent pas de désancrage. D'autre part, oui, les salaires. Oui, mais les salaires, si on se replace dans trois mois et qu'il y a une récession en Europe, les hausses de salaires, elles ne vont pas arriver très fort. Donc, je crois que la BCE, le cas est moins clair. Il y a un composante politique, on sait que les Allemands veulent une hausse des taux. Bon, on fait des compromis, voilà, on est dans un environnement. Juste un mot sur la dette. Oui, effectivement, la montée des taux coûte cher. Mais là, il faut plus raisonner en taux nominaux, il faut raisonner en taux réel. Il y a de l'inflation aussi. Le PIB nominal, il va augmenter beaucoup, même si le PIB réel n'augmente plus. Donc, bon, c'est pas catastrophique. Hein. Ce qui serait catastrophique, c'est qu'on ait des taux réels qui augmentent fortement. Là, oui, ça serait catastrophique, ça serait très dangereux. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Bon. Alors, c'est pas dire, et vous avez raison, hein. Je pense sur par exemple, l'emploi des 45 milliards pour abriter les Français, c'est complètement stupide. En fait, on subventionne les propriétaires de grosses voitures pour polluer. C'est quand même une aberration totale, quoi. C'est un peu ça. Voilà.
Bon. Non, juste deux choses, quand même. C'est fait que sur le discours de la BCE, pourquoi il faut qu'elle remonte les taux, c'est surtout le problème de l'euro. C'est-à-dire que si effectivement l'euro continue de baisser, ça va augmenter le prix des produits importés. Même si on a une baisse des prix des matières premières, effectivement, les prix des produits importés vont augmenter.
Ouais,
bah oui, donc c'est déjà.
Bien sûr, mais est-ce que c'est ça l'inflation ? Est-ce que c'est vraiment. Les études ne sont pas concluantes là-dessus. Enfin, je pense pas.
Encore une fois, elle alimente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'euro continue de baisser, de facto, on va avoir de l'inflation importée. À partir de là, c'est plus par ça. Mais le gros problème, c'est bien sûr un problème de crédibilité. On le sait très bien. De la Banque Centrale Européenne, qui malheureusement est très coûteuse. Et quant à effectivement l'argument sur le coût de la dette. Bon, bien sûr, en termes de taux réel, le problème, c'est le niveau que nous avons de dette, encore une fois.
Oui, mais enfin bon.
Pour l'Allemagne, ça passe encore. Ils ont 70% de leur PIB public. Nous, on est à bientôt 120%. Ouais, donc là aussi, ça crée des distorsions.
Alors à ce moment-là, le Japon qui a 250% de dette.
Vous savez très bien que le Japon, la dette est tenue par des Japonais à 99%.
Et alors
52%.
Bah oui, quel est le problème
que, bah oui, c'est
le problème. Les États-Unis, ils ont 100% aussi. Oui, tant que les taux réels sont ce qu'ils sont, mais je ne dis pas qu'ils ne vont pas l'être un jour, mais tant que les taux réels sont ce qu'ils sont, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à voir. Il y avait une interview très intéressante d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, le prix Nobel, sur France Culture, un nouveau concurrent, et qui disait les priorités. Alors, il y a des choses qui sont systémiques, des choses qui sont existentielles, des choses qui sont graves. Alors, la dette publique, c'est grave, mais on s'en sortira. Ce qui est effectivement plus existentiel, c'est peut-être le réchauffement climatique et ce qu'on fait rien pour. Peut-être qu'il y a des arbitrages toujours à faire. Et peut-être, moi, il me semble que l'arbitrage de court terme, vraiment la priorité, c'est peut-être faire une politique climatique un peu plus efficace.
Juste efficace, c'est ça, c'est prendre l'efficacité.
Ouais. Un petit mot aussi de la Chine. parce que la Chine occupe aussi une large place dans les préoccupations de marché. On est à une période particulière avec le congrès du Parti communiste qui arrive. Là aussi, on est proactif, mais on n'arrive pas vraiment à convaincre avec les mesures de soutien en Chine. Comment vous voyez les choses ? Rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc,
Non, très vite, si on voit effectivement l'économie chinoise, effectivement, déjà, il y a une grande opacité quand même. C'est un gros problème. Si on voit les indicateurs avancés de Caixin, c'est-à-dire les directeurs, indices des directeurs d'achat, on voit que dans l'industrie, c'est limite effectivement en stagnation économique, et dans les services, ça résiste bien, malgré les confinements. C'est vrai que c'est assez surprenant. Puis quand vous regardez les excédents commerciaux chinois, ben, c'est toujours pareil. On n'a toujours pas puni la Chine, entre guillemets, on consomme toujours autant chinois. On a des excédents de plus de 800 milliards de dollars, sur 12 mois, bien sûr. Donc, c'est vrai que la Chine résiste bien, malgré, évidemment, on aura un ralentissement. Sauf que comme c'est la locomotive mondiale, évidemment, il y aura un ralentissement mondial qui jouera également. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement aujourd'hui la Chine. Moi, ce qui me surprend plus dans la résistance, notamment du monde émergent, c'est l'Inde. On voit les indicateurs avancés de l'Inde, une croissance extrêmement forte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce monde dichotomique où les pays émergents résistent bien. En tout cas, c'est vrai que c'est assez surprenant. Ça ne va peut-être pas durer éternellement, mais voilà. Là aussi, encore une fois, les dindons de la farce, bon, ça sera toujours l'Europe comme d'habitude, je pense que les pays, entre guillemets, développés vont encore, malheureusement, payer une facture assez nette. Mais par contre, sur le secteur immobilier chinois, c'est vrai que ça va continuer de baisser, mais je pense que l'économie chinoise va quand même bien résister. Ils auront au moins 4% de croissance cette année en moyenne annuelle.
Préoccupé ou pas par cette Chine ?
D'un côté, non, parce que le ralentissement chinois, c'est bon pour la baisse des matières premières, donc c'est bon aussi pour la pollution. Donc, mais le modèle chinois, il a une crise existentielle, avec un taux de chômage des jeunes qui atteint aujourd'hui 16%. C'est quoi le deal chinois ? C'est le Parti communiste dit, vous nous laissez la paix politique et on vous garantit la croissance. Bon. Il n'est pas sûr que cette équation tienne encore longtemps. Enfin, on va voir. C'est ça un peu le mystère chinois.
Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce que nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent faire de leur portefeuille ? Parce que certains se sont dit, finalement, on nous avait pronostiqué un été chaud, et puis mon portefeuille s'en est pas trop mal sorti. Mais maintenant, pour bien terminer l'année, vous auriez un ou deux petits conseils très pratico-pratiques ?
Ah oui. Bien sûr. Acheter de la dette d'entreprise investment grade. Courte. Aujourd'hui, vous avez les taux rendements. Alors, c'est 3%, mais c'est déjà mieux que zéro. Et puis, c'est... disons, vous achetez du 2 ans qui vous rapporte du 3%, donc c'est peut-être moins bien que l'inflation, mais c'est beaucoup mieux que le cash. Il y a des risques
mais
très limités.
Mais à yield, il faut aussi...
Alors, à yield, c'est compliqué parce que, juste, bon, pour parler un peu techniquement, le spread à yield aujourd'hui, il est autour de 500 points de base. Et quand on sait qu'il y a une récession qui vient, en général, le spread, il va plutôt à 700, 800, voire 1000 points de base. Bon, 8000 peut-être pas, mais dans les circonstances actuelles, mais le spread n'est pas assez important, quoi. Le spread n'est pas assez important. Donc, il y a encore un écartement des spreads à craindre. Bon, alors si on retrouve les 800 points de base, peut-être que ce sera intéressant. Aujourd'hui, l'investment grade, court terme, vous prenez peu de risques et vous avez du rendement, quoi.
Moi, je dirais qu'il faut effectivement rester prudent. C'est toujours pareil, ça dépend de l'horizon d'investissement. C'est que c'est sur le court terme, il faut faire le dos rond. Alors voilà, on a quelques taux d'intérêt effectivement qui servent qui sont assez sympathiques. Mais sur le long terme, je pense qu'il va y avoir des affaires à faire d'un point de vue boursier. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement des dividendes sympathiques.
Donc là, pour le moment, rester un peu...
Pour le moment, rester prudent. Alors évidemment, il y a toujours l'or, il y a toujours avoir une petite poire pour la soif, il faudra bien baisser. Si demain, effectivement, on sort de la guerre, l'or peut-être repartir à la baisse, mais c'est toujours, encore une fois, 10-15% de son portefeuille, ça fait pas de mal. Mais maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Bien sûr, moi, je pense délaisser les dettes publiques, ça par contre, où ça peut devenir dangereux demain, parce que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et donc voilà, prudence, un peu d'immobilier sur le long terme, même si effectivement, on aura 10-15% de baisse si on prend le marché français. Donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a mangé un peu notre pain blanc, cet été a été très sympathique. Là, il faut que payer les factures. Et encore une fois, le point d'achoppement, c'est le 25 septembre, les élections italiennes. Si ça se passe bien, on pourra revenir allègrement sur les marchés, il y aura des belles affaires à faire. Sinon, alors là, ça va être une fin d'année extrêmement compliquée.
Merci à tous les deux. Marc Touati pour le cabinet ACDFI et Reset2.
Reset2, tout à fait, qui fonctionne toujours très bien. Toujours en tête des ventes sur Amazon, tout va bien.
Et Hugues de Montvalon pour Odo, BHF, Banque Privée. Merci Hugues. À très bientôt. Merci. Le marché parisien qui reste pour le moment un peu tendu. On menace les 6000 points. Pour le moment, on est juste en dessous, 5994 points. On perd 1,36%. On va voir dans un instant ce que nous en dit Andrea Twenny. Et puis, vous n'oubliez pas les replays que vous retrouvez sur vos plateformes favorites ou sur notre site pour pouvoir déguster tout ou partie de l'émission à votre convenance.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file sur les marchés pour cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, puisqu'on vous accompagne jusqu'à midi. Et c'est Andrea Tweny qui suit pour nous les palpitations du marché depuis ce matin, parce que bon, c'est quand même assez agité autour des 6000. Et pour le moment, eh bien, on est sous l'eau, Andrea.
Oui, c'est vrai que les 6000, on sent que c'est le point psychologique, on va dire, de ce matin, en tout cas sur le CAC. C'est un niveau en dessous duquel on évolue pour le moment. Donc le risque, comme je le rappelais plus tôt ce matin, c'est de revenir sur une zone autour des 5925, peut-être jusqu'à 5950. C'est une zone de support, en tout cas le support le plus important, 5925. En dessous, ça nous ferait aller jusqu'à 5870-75. Donc voilà, en tout cas, les prochains niveaux de support à surveiller sur le CAC. Mais ce qu'on ressent, en tout cas, déjà depuis la semaine dernière, c'est qu'il y a une inquiétude quand même des investisseurs et surtout beaucoup d'attentes autour de cette réunion de la Fed. Alors on a vu après les chiffres de l'inflation la semaine dernière surgir, on va dire, un scénario potentiel d'avoir une hausse de 100 points de base de la part de la Fed. Alors le scénario de base, ça reste un 75 points de base de hausse, ce qui constituerait déjà la troisième hausse consécutive de cette ampleur du côté de la Fed. Donc ça serait quand même un mouvement important de la part de la Fed. Mais il y a encore une minorité qui pense qu'on peut aller jusqu'à 100 points de base. Et c'est vrai que cette incertitude et cette attente, on va dire, bloque, on va dire, un petit peu le marché, mais dans une tendance quand même un petit peu inquiète. On le voit, hein, alors même si les mouvements sont pas très violents, on a une baisse qui s'est faite de manière, on va dire, linéaire sur plusieurs séances, mais on n'a pas eu vraiment de mouvements extrêmement violents sur le marché pour le moment. On sent pas non plus la capacité aujourd'hui du CAC à rebondir avant cette réunion, avant d'avoir évacué ce potentiel, voilà, cette potentielle incertitude, ce stress autour de cette réunion de la Fed, Donc, il va falloir être un petit peu patient pour espérer peut-être voir mieux du côté des marchés. En tout cas, pour la séance d'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a des volumes qui pourraient être un peu plus faibles. On voit que Londres est fermée. On a aussi encore une fois l'attentisme autour de cette réunion de banque centrale. Donc, du coup, on s'attend pas à beaucoup mieux. On pourrait du coup continuer à glisser sur le CAC. Et pourquoi pas revenir sur les 5925. C'est vraiment le prochain niveau à surveiller, en tout cas sur le marché. Si on arrive à préserver les 6000, on a toujours un espoir de rebond, mais il faudrait repasser au-dessus de 6150, 6180 pour déjà avoir un premier signe d'embellie. Mais pour le moment, voilà, en tout cas, tendance plutôt lourde, et on surveille, on attend en tout cas impatiemment cette décision de la Fed pour peut-être avoir plus de visibilité et sortir un petit peu de cette dynamique négative qui a commencé à se construire et à se constituer déjà depuis la semaine dernière et les chiffres de l'inflation.
Merci beaucoup, Andrea. Andrea Tweny, donc Saxo Bank, qui nous accompagnait ce matin pour lire la tendance du jour. Et puis, on vous rappelle le contexte un peu particulier parce que les investisseurs continentaux, on va dire, sont un peu livrés à eux-mêmes aujourd'hui pour cause d'enterrement de la reine Elisabeth II. La Bourse de Londres est fermée ce matin. Le CAC 40, lui, donc en baisse assez nette d'un 57%. On est à 5981 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et c'est Frédéric Lorenzini qui nous accompagne le lundi matin. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
En ligne avec nous depuis Patrimoine 24, et cet auditeur qui nous demande ce qu'il faut penser du fonds Ruffer Total Return International.
Alors c'est quoi ce Ruffer Total Return International? C'est un fonds qui n'est pas très connu en France, et je pense que votre auditeur s'y intéresse, parce que c'est un fonds qui récemment a été primé. C'est un fonds qui est dans l'univers dit flexible. C'est géré par Ruffer. Ruffer, c'est une maison anglaise. Alors, c'est une maison anglaise qu'on ne connaît pas encore beaucoup en France. Ça gère quand même 25 milliards d'euros. C'est une maison qui a été créée en 94, qui va bientôt avoir 30 ans, par Jonathan Ruffer. C'est de la gestion de conviction. Et cette maison Ruffer, ça rappelle un peu une grosse boutique française fondée par un certain Édouard C. Donc voilà, Ruffer Total Return International.
Édouard Carmignac, on va mettre les pieds dans le plat.
C'est ça.
Bon, concrètement, ce fonds, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, ce fonds, c'est typiquement ce qu'on appelle un fonds patrimonial. C'est un fonds qui vise à gagner de l'argent et puis surtout à préserver le capital, quelles que soient les conditions de marché. Alors, ce fonds se présente volontiers comme allant à la vitesse, et c'est le gérant lui-même qui le dit, d'un tracteur. Donc ça ne vise pas à faire des étincelles, mais ça vise vraiment une gestion patrimoniale. Ça a été fondé en 2011. Originellement, le fonds est en livres sterling, donc il peut y avoir un petit effet de change, il faut le savoir. C'est un fonds mixte, c'est un fonds qui associe aussi bien actions et obligations. Il est flexible, c'est-à-dire il n'y a pas de contrainte, il peut être 100% actions ou 100% obligations en fonction de ses convictions. Voilà, c'est ça, en synthèse, ce fonds.
Est-ce qu'il donne de bons résultats?
Est-ce que ça donne de bons résultats? Écoutez, le fonds est noté 5 étoiles par Cantalis et par Morningstar. Sur 10 ans, c'est près de 5% par an. Sur un an, parce que la dernière année a été compliquée, sur un an, le fonds garde la tête hors de l'eau. Il fait un petit 0,76%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est positif. Et puis, il a une volatilité plutôt inférieure à la moyenne de la catégorie. Je pense que c'est lié un peu à ce qu'on trouve dans ce fonds.
Bon, et question traditionnelle, hein, chaque lundi matin, quand on ausculte comme ça un produit de gestion collective, est-ce qu'on y va?
Alors, typiquement, c'est ce qu'on appelle, je disais, un fonds patrimonial. C'est typiquement un fonds, c'est du fonds de portefeuille, oui, donc c'est une offre qu'on peut mettre en portefeuille. C'est du beau travail.
Frédéric Lorenzini qui décortiquait pour nous ce fonds donc Ruffer Total Return International. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Lorenzini et Patrimoine 24. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions autour de la gestion collective, à nous solliciter. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et chaque lundi matin avec Frédéric Lorenzini ou chaque vendredi avec les équipes de Morningstar, eh bien on vous apporte des éclairages autour de ce monde de la gestion collective.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et c'est ce matin Christian Fontaine qui répond à toutes vos questions pour la rédaction du Revenu. Prêt, Christian ?
On y va. Bonjour à tous.
Et là encore, hein, notre mail vous attend. Si vous souhaitez poser des questions auxquelles nos experts peuvent apporter des réponses, eh bien, notre boîte mail vous ouvre les bras. bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. On commence, Christian, avec la question de Laura. Le PER permet, paraît-il, nous dit Laura, d'investir en bourse tout en payant moins d'impôts. Et elle voudrait savoir si cette affirmation est exacte.
Alors Laura, elle est bien renseignée. Effectivement, on a un petit peu l'impression, donc lors d'une promesse mirifique, le beurre et l'argent du beurre, le potentiel de la bourse tout en ayant un avantage fiscal. Mais oui, c'est possible. Sachant Laura, bien sûr, que comme pour tout placement ou comme pour tout avantage fiscal, il y a des contreparties. Et je dirais que la contrepartie la plus contraignante, c'est que votre argent est immobilisé jusqu'à votre retraite. Alors Laura, je connais pas votre âge, mais vu votre prénom, on peut estimer que vous avez plutôt 30 ans. Que 61 ans, donc votre argent va être bloqué. Alors, ceci dit, il faut prendre un petit peu de hauteur. Le PER, plan d'épargne retraite, commercialisé depuis près de 3 ans. C'est vrai que c'est un placement qui est destiné à se constituer un complément de revenus au-delà donc lors des pensions versées par les régimes obligatoires CNAV et puis régimes complémentaires. Et c'est vrai que les enjeux sociétaux sur le financement de cette fin de vie, en tout cas de cette période d'inactivité à partir de 62-63 ans, sont tels que le législateur accorde un avantage fiscal à l'entrée. C'est un peu le PER, c'est un petit peu un fonds de pension à la française. Alors, l'avantage fiscal, quel est-il ? Il faut bien savoir que ce n'est pas... Il faut faire un tout petit peu de technique. Ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est une déduction fiscale. C'est-à-dire que si vous versez 100 sur un PER, vous ne payez pas 100 d'impôts en moins, ça serait bien, mais là, ça serait un peu too much. Vous réduisez, vous prenez vos 100 et vous les déduisez de votre revenu imposable. Et donc, comme vous y connaissez en matière de fiscalité et que le Code général des impôts n'a plus de secret pour vous, vous savez que dans ces cas-là, votre réduction d'impôt sera égale au montant de vos versements multiplié par votre taux marginal d'imposition. Je vous la fais court, vous versez 100 euros, la plupart des cadres vont économiser 30 euros ou 41 euros d'impôts. Attention, c'est ce qu'on appelle, c'est un avantage fiscal à l'entrée, mais qui est en partie repris à la sortie. Donc, c'est plutôt un report d'imposition qu'une vraie carotte fiscale.
Malgré tout, vous dites coup de pouce sous la forme de réduction d'impôt.
Alors, c'est un coup de pouce sous la forme de réduction d'impôt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le sous-jacent. Donc, le PER est une enveloppe fiscale. Et puis, on dit souvent, mais la bourse, à travers le compte-titres, c'est uniquement à travers le PEA, donc alors voir l'assurance-vie. Non, la bourse, c'est aussi à travers le PER. Au contraire, le PER, c'est plus une enveloppe fiscale qu'un placement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein de cette enveloppe, vous choisissez donc d'investir sur des supports plus ou moins risqués. Le fameux fonds en euros, on en parle souvent sur votre antenne. Et puis, ça peut être des fonds investis en actions, les fonds investis en obligations, vous avez aussi certains PER donnent la possibilité d'arbitrer en direct, donc leur entre des titres en direct. Donc le PER, c'est bel et bien de la bourse, et donc le conseil du revenu, c'est d'alimenter régulièrement ce PER. C'est un placement retraite, donc on a du temps. Laura, vous avez du temps devant vous. Donc conseil du revenu, c'est si vous payez des impôts, puisque bien sûr il faut payer des impôts, sinon ce placement n'est pas intéressant, c'est d'alimenter tous les ans ce PER. Il faut savoir qu'il y a un plafond d'avantage fiscal équivalent à 10% peu ou prou de vos revenus, c'est le cas le plus général. Donc si vous gagnez 50 000 euros, pour prendre un chiffre rond, vous avez le droit de verser 5 000 euros chaque année sur votre PER, et cette somme vient en déduction donc de votre revenu imposable. Donc si vous êtes taxé à 30%, ça vous fait tout de même 1500 euros d'économie en moins. Le conseil du revenu, donc, c'est d'investir un petit peu chaque année. Comme ça, quand la bourse est chère, vous achetez relativement peu de parts de fonds. Et quand la bourse est meilleur marché, vous en achetez davantage. Et ça permet ce qu'on appelle, ça lisse vos prix de revient et ça maximise vos gains. Donc oui, Laura, vous êtes bien conseillée. Le PER, c'est à la fois de la bourse et c'est de la bourse avec avantage fiscal. Et là, vous avez raison de vous y intéresser. C'est qu'en fait, vous allez investir en bourse au lieu de donner, elle va être caricaturale, au lieu de donner votre argent aux impôts, vous le placez. Ouais. Et même si au terme du placement, l'administration fiscale voudra récupérer un petit peu, mais vous allez quand même placer de l'argent qui peu ou prou ne vous appartient pas, et de façon caricaturale, et vous allez quand même encaisser les gains. Donc il est intéressant de réduire ses impôts.
On est quand même un petit peu loin de la bourse, non?
Alors, on n'est pas du tout loin de la bourse, puisque au contraire, lorsque le PER, c'est un placement sur le très long terme. Donc, quand vous avez du temps devant vous, et quand vous avez du temps devant vous, il faut privilégier la bourse. Donc, oui, vous avez raison que dans le PER, on peut choisir des supports d'investissement peu risqués. Mais ce n'est pas du tout adapté à la durée de placement, qui est la durée qui est celle du PER jusqu'à la retraite. Donc, au contraire, le conseil du revenu, c'est d'investir 100% en bourse vos économies que vous investissez, que vous placez au sein d'un PER. Non, le PER, c'est bel et bien de la bourse, et de la bourse avec réduction d'impôts. Et Laura, vous avez entièrement raison de vous y intéresser.
Voilà donc une réponse très complète, Laura. Question de Pierre, qui cherche à suivre votre conseil de négocier la transférabilité de son prêt, mais la banque me dit que c'est en pratique inapplicable. Alors on rappelle, là on est vraiment dans l'IMO, sur les prêts.
Voilà, alors on va rappeler un petit peu le principe. Hein. Donc le principe d'un prêt, c'est un contrat entre un emprunteur, vous, qui nous écoutez, et puis un établissement financier. Un prêteur et une banque. Et ce contrat, il y a de très nombreuses clauses. Bon, tout le monde pense à négocier le taux nominal, c'est bien. Maintenant, il faut aller au-delà et négocier non seulement tous les frais annexes, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie, vous en parlez souvent sur votre antenne, mais on oublie aussi que c'est un contrat qui peut être plus ou moins souple. Bon, donc il y a des clauses notamment de modularité qui permettent en fonction de l'évolution de votre situation budgétaire, je dirais, d'augmenter le montant des mensualités ou de les réduire. Bien sûr, si vous les réduisez, ça augmente de temps la durée de votre prêt. Et puis il y a une clause dont on entend souvent parler, beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est la transférabilité. C'est la possibilité, une fois que vous avez négocié un taux canon, même si vous revendez, la plupart des propriétaires revendent au bout de 7 ou 8 ans, par exemple pour acheter plus grand ou pour acheter plus petit, s'ils vont à la retraite, c'est la possibilité de transférer, de conserver ce taux canon en transférant le prêt sur un autre bien. Et l'avantage aussi, c'est que, en termes de frais, on en parlait tout à l'heure sur votre antenne, comme vous ne remboursez pas le prêt par anticipation, vous ne payez pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. Alors, c'est une telle aubaine extraordinaire, surtout en période de taux bas. Même si les taux ont fortement augmenté, il reste bas. En tout cas, il pourrait être bien plus élevé demain. D'où cette clause demeure très intéressante. C'est une telle aubaine que les banques ne sont pas folles. Donc, elles n'acceptent pas forcément. Cette clause doit être dans les conditions générales et vous ne pouvez pas l'obtenir de façon systématique. C'est plus ou moins facile selon les banques que selon votre profil. Mais il faut savoir qu'un prêt, c'est un contrat avec, on va dire, une dizaine de clauses. Vous n'obtiendrez pas gain de cause sur
toutes les clauses.
Donc c'est à
choisir son cheval de bataille.
À vous à définir ce qui est le plus important pour vous. Ça peut être le taux nominal, ça peut être l'assurance, ça peut être l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé, ça peut être la modularité du prêt et ça peut être la transférabilité. Donc la transférabilité, oui, c'est possible. Il faut savoir que les banques imposent parfois des conditions. Par exemple, vous devez transférer votre prêt sur un bien de même nature. Si vous avez emprunté au départ pour financer votre résidence principale, il faut que vous déménagiez pour acheter une autre résidence principale. Il peut y avoir aussi des obligations de quasi-simultanéité ou en tout cas entre l'opération de vente du bien et de rachat d'autres biens. Toutes les banques n'imposent pas la simultanéité, mais il peut y avoir un nombre de mois maximum à respecter entre la vente du bien et l'achat du nouveau bien. Voilà, Pierre, la transférabilité du prêt, c'est une des clauses d'un contrat de prêt. C'est intéressant de la négocier. Si vous êtes si vous envisagez au contraire de vendre un bien, si vous avez pris soin à la souscription du prêt, c'est-à-dire il y a quelques années, à négocier la transférabilité, c'est l'une des clauses de votre contrat, essayez de la mettre tout en œuvre. C'est particulièrement bien intéressant si vous déménagez pour acheter un bien plus petit. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de prêt complémentaire. Et il ne faut pas se leurrer. La transférabilité, c'est tellement extraordinaire comme clause.
Que la banque essaiera de se...
vous fait un cadeau d'un côté, elle va essayer de se récupérer de l'autre. Mais si vous n'avez pas besoin de prêt complémentaire, je dirais que vous êtes grand gagnant. Voilà.
Allez, on marque une toute petite pause, histoire de jeter un œil sur cette séance un petit peu délicate. Le CAC 40 qui perd 1,67%, qui a cassé il y a quelques minutes le seuil des 6000 points. On est à 5975 points. On baisse ailleurs en Europe avec cette petite mention spéciale, puisque ce sont les funérailles de la reine Elisabeth. Et du coup, la Bourse de Londres garde porte close aujourd'hui. Les opérateurs continentaux sont donc un peu livrés à eux-mêmes. Du côté des principaux arbitrages, il y a un dossier qui se distingue très nettement ce matin. C'est celui de la fusion TF1-M6. Abandonné à la veille du week-end et du coup les arbitrages se font au détriment de ces deux titres, moins 4% sur le titre M6, moins 3,97 sur le titre TF1, deux titres donc au coude à coude. L'eurodoll de son côté est ce matin à 99,73. Quant au pétrole, le Brent de la mer du Nord s'échange contre 89,83$.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Avec à la baguette ce matin, Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu et notre mail qui vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Chaque matin, nos experts vous répondent. Question de Karim, Christian. Alors, il nous précise, Karim, qu'il est jeune actif, qu'il a 27 ans et qu'il possède un livret A et un LDD qui ont atteint leur plafond. Ça, c'est déjà pas mal. Un PEL et un CEL ouverts en 2011 avec 2000 euros chacun. Et il voudrait des conseils pour faire fructifier son patrimoine.
Alors, d'abord, bravo Karim. Je ne sais pas d'où vous vient cette épargne, mais à 27 ans, 40 000 euros, puisque si on additionne l'argent qui figure sur le livret A, LDD, PEL et CEL, on obtient environ 40 000 euros. Donc, c'est déjà une belle petite cagnotte. Jusqu'à présent, vous avez privilégié les placements, ce qu'on appelle des placements dits de trésorerie, liquides, sans impôts et sans prélèvements sociaux. C'est le cas du livret A et du LDD. C'est bien. Maintenant, manifestement, vous écoutez donc la BFM Patrimoine. J'ai également lu sur votre fiche que vous étiez abonné au Revenu. Donc, c'est clair que vous en demandez. Vous voulez
faire le client parfait. Quoi.
Voilà, il veut encore enfermer. Et surtout, c'est le client à potentiel, donc là, et qui s'intéresse à son épargne et qui veut passer à l'étape d'après. Alors, pour passer à l'étape d'après. Pourquoi pas vider le CEL, Karim? Bon, ça rapporte 1,25% aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. En fait, le conseil du revenu, c'est un peu de réduire vos liquidités. Vous démarrez dans la vie professionnelle, on conseille généralement d'avoir l'équivalent de 2 ou 3 mois de revenus sur des livrets défiscalisés pour faire face aux coûts durs. Donc aujourd'hui, vous avez quelques 30 000 euros sur livret A et LDDS. Le conseil du revenu, c'est de le réduire environ à 5 000 euros. Et puis avec le reste, il faut commencer à penser à la deuxième étage de la fusée de la constitution d'un patrimoine. Première étape, on met de l'argent de côté pour les coûts durs sur des livrets. Vous l'avez déjà fait, Karim. Deuxième étage, acquisition de la résidence principale. Le revenu le dit fermement. On a beau être à une époque où on parle beaucoup de l'économie d'usage, de la location, on loue tout. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes professionnels, ils sont très à cheval sur l'immobilier. Ils veulent acquérir leur logement et ils ont raison. Ça sécurise leur avenir et l'avenir de leurs proches. Donc, il faut préparer l'acquisition de la résidence principale. Donc, pour là, il faut mettre de l'argent de côté. Vous avez un PEL. C'est une bonne enveloppe pour mettre de l'argent de côté. Alors, vous ne dites pas quand vous l'avez ouvert, donc c'est assez difficile de savoir.
Si, ouvert en 2011. Combien. Enfin, on imagine, je ne sais pas. Enfin.
Ou l'un ou l'autre. Ouais. Ou est-ce que c'est l'un et l'autre? Donc, c'est peut-être un PEL qui rapporte 2, 2,5. Donc, il ne faut pas hésiter à l'alimenter. Vous allez montrer, au-delà du rendement, au-delà, parce que vous savez, le PEL, il y a une phase de rendement. Puis après ça, il y a une phase où vous allez pouvoir emprunter dans des conditions qui peuvent être intéressantes. Donc, au-delà de ça, de ces éléments purement financiers, vous allez montrer à votre banquier que vous êtes capable de progressivement mettre de l'argent de côté. Donc, le PEL, il faut certainement le conserver. Et puis, vous vous intéressez à vos placements. Il faut faire vos premiers pas en bourse, Karim. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. La bourse, c'est peut-être un lieu commun, mais c'est, tous les lieux communs ne sont pas faux. Et en l'occurrence, là, le lieu commun est exact. La bourse, c'est le placement le plus rentable sur le long terme. 7 à 8% de rendement. C'est, en tout cas, c'est la progression de l'indice MSCI World investi dans quelques 26 pays de mémoire et 1600 valeurs. Donc, la bourse est rentable, hein, 7 à 8% par an de gains potentiels dans la durée. Donc, il faut faire vos premiers pas en bourse. On le rappelait tout à l'heure, en bourse, il faut intervenir par l'intermédiaire d'un professionnel. Il faut ouvrir un compte titre ou un PEA. Ouvrez un compte titre, ouvrez un PEA et puis pourquoi pas aussi un contrat d'assurance vie. Comme ça, vous serez bien équipé pour passer à l'étape d'après en matière de placement.
Voilà, Karim, quelques éléments de réponse. Tony, peut-on changer son compte assurance vie de banque?
Ah. Alors, non, l'assurance vie, il y a des tas de placements. Vous parliez du livret A, du LDD, du PEL, du CEL. Il y a des tas de placements qui sont ce qu'on appelle transférables. Vous pouvez passer avec armes et bagages d'un établissement A vers un établissement B. Ce n'est pas le cas de l'assurance vie. Alors, c'est un vrai faux problème parce que si vous n'êtes pas content de votre assurance vie, quand on veut changer de banque, c'est souvent qu'on n'est pas content, vous avez quand même toute une panoplie de solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez d'abord arrêter les versements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez effectuer des retraits, qu'on appelle des rachats dans le cadre. Vous pouvez voir clôturer votre compte. Attention, en cas de retrait partiel ou en cas de retrait total clôture, vous pouvez passer par la case impôt, vous pouvez passer par la case prélèvements sociaux. Donc, il faut se renseigner pour savoir exactement ce que vous payerez en frais. Voilà, l'assurance-vie.
Sachant qu'on rappelle que quand on fait du rachat, on rachète à la fois des plus-values et à la fois du capital.
Voilà, sur le capital, vous paierez bien sûr ni prélèvements sociaux ni impôts. Par contre, sur les éventuels gains, c'est là où il peut y avoir des prélèvements fiscaux et ou sociaux. En tout cas, Tony, beaucoup trop de Français, c'est un piège quand on débute avec les placements, conservent donc des placements avec lesquels ils ne sont pas forcément satisfaits. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont perdre des avantages fiscaux, donc, etc. Il ne faut pas hésiter, si vous n'êtes pas satisfait d'un placement, d'en changer. Donc, peut-on changer son compte assurance vie de banque? Non, vous ne pouvez pas passer avec votre contrat d'assurance vie qui s'appelle XXX, donc lors de la banque A vers, qui vous l'a vendu vers la banque B. Par contre, vous avez tout à fait les moyens de faire comprendre à votre banquier que vous n'êtes pas satisfait placement. Donc, arrêtez les versements éventuellement. Et puis, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Ça ne sert à rien de traîner pendant des années, voire des décennies, des placements qui offre un rendement et qui affiche des frais supérieurs au marché, un rendement inférieur au marché et des frais supérieurs au marché. Donc voilà, Tony, vous posez une bonne question et même si l'assurance vie n'est pas transférable, il y a des solutions concrètes à votre problématique.
Voilà, cela étant dit, elle est transférable dans la même compagnie. Donc, si son contrat est un peu malmené, il peut essayer d'avoir un contrat moins maltraité.
Bonne précision et vous avez entièrement raison. Au sein de la même compagnie, vous pouvez voir si, mais tout le reste, si vous passez, vous pouvez passer de votre contrat dont vous n'êtes pas satisfait vers un contrat plus rentable. Attention, alors c'est la compagnie qui peut vous offrir cette possibilité ou non. C'est plus ou moins facile selon les établissements et selon les profils d'épargnants. Mais vous avez entièrement raison de préciser ce point. L'assurance vie n'est pas transférable entre établissements, mais au sein donc, alors, d'un même établissement.
Il faut quand même trouver une mini porte de sortie en attendant mieux.
Et vous pouvez conserver l'antériorité fiscale. C'est une autre solution aussi possible pour Tony.
Allez, il vous reste 2 minutes pour répondre à Olivier qui envisage d'investir dans une résidence senior avec service. Qu'en pensez-vous ?
Alors, les résidences seniors, donc, ce sont des résidences hein, avec un certain nombre de services. Laverie, gardiennage, restauration, donc proposé aux seniors. C'est vrai que ça répond à un vrai besoin parce qu'en France, on manque d'établissements, je dirais, adaptés aux plus âgés. Maintenant, pour l'investisseur, ben, vous avez souvent un rendement garanti, vous profitez d'un cocktail d'avantages fiscaux. Les inconvénients, ben, c'est que ce n'est pas de l'immobilier traditionnel. Vous êtes lié à un exploitant avec lequel vous signez un bail commercial. Bon. Donc, il faut bien lire en détail les caractéristiques de ce bail, qui paye quoi, notamment en matière de travaux. Et ensuite, il faut savoir que forcément, il peut y avoir en cas de conflit, en cas de problème, un rapport forcément déséquilibré entre un professionnel donc, de la gestion de ce type de bien et puis vous, investisseurs particuliers, vous ne connaissez pas forcément non plus les autres investisseurs qui ont acheté une chambre donc, dans la résidence. Donc oui, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin des investisseurs qui ont besoin de revenus complémentaires et qui souhaitent en profiter dans le cadre d'avantages fiscaux. Ceci dit, donc attention à ce bail et faites toujours confiance à un professionnel, à un exploitant de résidence qui a un vrai historique dans la gestion des résidences seniors.
Christian Fontaine et la rédaction du Revenu qui répond à toutes vos questions chaque lundi. N'hésitez pas à nous écrire BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr.